la césarienne allemande du nom de Corneille, s'obtenir de la porte appelée italienne. Il était pieux avec toute sa maison et craignait Dieu. Il faisait beaucoup de demandes au peuple et priait Dieu constamment. En Actes chapitre 10, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Fais venir un certain Simon sur mon nom Pierre ». Pourquoi cet homme devait-il donc faire venir Pierre chez lui? Le livre des Actes, au même chapitre, nous donne la réponse. Envoie chercher à Jaffa Simon, nom et Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Chaque être humain est pécheur. Il faut entendre l'évangile de Jésus et l'appliquer à sa vie pour être sauvé et rétablir un lien direct qui unit à Dieu. Corneille était un homme pieux, et cependant, il appartenait à l'armée la plus brutale, la plus fanatisée de son époque. Le gouvernement dont il dépendait était athée à l'extrême, et pourtant lui, centenier romain, païen par nature, croyait en Dieu. Il le craignait même dans le sens où il respectait le Dieu unique. Bien que n'étant pas de race juive, il reconnaissait cependant la profonde moralité de cette race. Corneille n'adorait donc pas les idoles et ne vivait pas dans le péché. Il est même dit en Actes 10, 22 que toute la nation juive rendait de lui un bon témoignage. Ce seul détail démontre qu'il avait véritablement gagné le cœur des habitants de Césarée, qui le tenaient en haute estime. Il agissait d'une manière étonnante car le Romain était honni en Palestine. Corneille donnait beaucoup, priait sans cesse et sa grande spiritualité ne faisait de doute pour personne. Cependant, il n'était pas sauvé. La bonté profonde, nous le voyons, ne sauve pas. Une personne peut être pieuse, craindre Dieu, aider tout le monde, prier sans arrêt, et être tout de même perdu. Nombre de gens, s'ils s'adressaient à Corneille, diraient aujourd'hui, « Vous êtes vraiment un homme de bien, demeurez ainsi. Personne ne pourrait avoir une autre réaction. » Parce qu'il est courant de s'entendre dire « Je suis fidèle à mes opinions et honnête. Je paie mes impôts sans tricher, ainsi que mes dettes. Je respecte chacun, je ne fais de mal à personne, je n'ai donc pas de crainte à avoir. Quant à mon salut, Dieu est infiniment bon. » Ce raisonnement est faux. Corneille était un pécheur. Chaque homme, chaque femme qui vit sur ce globe est un pécheur. Corneille voit un ange, mais il est malgré tout un pécheur, puisque ce même ange lui dit « Envoie chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. » Il est aisé d'imaginer l'attitude qu'adopteraient les fidèles de notre Église si Corneille y venait. On chuchoterait certainement des choses comme « C'est Corneille, celui qui a vu un ange, une personnalité importante. Vous avez dû entendre parler de lui. Il y a de ceux qui en ont besoin, il prie beaucoup, il croit au même Dieu que nous. Cet homme, c'est un saint. Allons le saluer bien vite. » Mais la Bible dit bien que l'ange a stipulé « Envoie chercher un prédicateur à Jaffa qui te dira comment être sauvé. » Si Corneille a besoin d'être sauvé, alors vous aussi. Simon-Pierre, à la même époque, éprouvait certains problèmes à propos de l'assemblée de Joppa, qui jusqu'alors avait délibérément limité la diffusion de l'Évangile aux seuls Juifs et Samaritains, excluant ainsi toute autre ethnie. Dieu lui envoie une vision céleste et par trois fois, Dieu lui dit de tuer et de manger des animaux qui, sous l'Ancien Testament, étaient considérés comme impurs. Et Pierre refuse d'obéir à cet ordre en s'écriant « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Il tient à ses traditions jusqu'à son Dieu et à ses enseignements. Peu après la troisième vision, trois hommes frappent à la porte. Et les envoyés de Corneille se présentent, et contrairement au règlement établi, Pierre les accueille. Il comprend que ces deux événements sont étroitement liés, et pour la première fois de sa vie, il va passer la nuit sous le même toit que les païens, ce que le rituel juif interdit formellement. Le jour suivant, il prend six frères avec lui, et suit les émissaires du centenier romain pour se rendre à Césarée. Et là, Corneille va lui dire ceci. « Nous sommes tous ici devant Dieu, pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. » Et Pierre va alors faire un exposé qui débute par l'impartialité de Dieu envers toutes les nations et se poursuit par Jésus, la signification de son sacrifice et de sa résurrection. Chacun, sans exception, peut maintenant être sauvé. Cornée a besoin de l'Évangile. Il a besoin d'être sauvé. Vous et moi aussi avons besoin de l'Évangile. En ce qui concerne le salut accordé par la conversion dont parle le livre des Actes, chaque cas est un cas d'espèce. Cela n'empêche que les conditions en sont toujours rigoureusement identiques. Les gens sont sauvés dans des circonstances différentes et entendent prêcher l'Évangile sous différents angles et par des ondes dissemblables. Et dans tous ces exemples, cependant, les conditions du salut sont strictement les mêmes. La foi en Christ, la repentance, la vue spontanée de la foi et l'immersion en Jésus, le Sauveur. Six cas majeurs de conversion sont racontés par le livre des Actes. La première, les 3000 qui réalisaient qu'ils avaient en effet crucifié le Fils de Dieu. La deuxième, l'Éthiopien qui voyageait sur son char. La troisième, Saul de Tarse à qui le Seigneur apparaît. Quatrième, Corneille. Cinquième, Lydie, la marchande de pourpre. Sixième, le geôlier de Philippe. Les personnes, les prédicateurs, les circonstances, les endroits n'ont rien en commun. Cependant, à chacun, le même Christ, le même Jean, l'Évangile et les mêmes conditions du salut par grâce sont annoncées. L'histoire du centenier Corneille est apparemment singulière. Et fait espérer à certains que l'Esprit Saint intervient directement dans notre salut. À l'examen, on s'aperçoit que le baptême du Saint-Esprit apparaît ici dans un but bien précis et absolument limité. Il ne fait pas partie intégrante du salut, ni même d'un de ses prolongements. La Bible stipule bien que Corneille est le premier gentil, autrement dit non-juif, à se convertir. Cet homme se situe aux antipodes du judaïsme. Lui qui est romain, un cas extrême. Jusqu'à présent, le juif ne peut se souiller en offrant à un gentil son amitié, en mangeant avec lui, en lui donnant l'hospitalité. Nonobstant ces règles précises dans ce même 10e et 11e chapitre des Actes des Apôtres, on voit Dieu accomplir 4 miracles afin de convaincre les juifs que tout cela fait partie depuis la résurrection de Jésus d'une autre époque, que tout est changé, transformé, spiritualisé. 1. Corneille voit apparaître un ange. 2. Pierre, le prédicateur, a une vision. 3. Le Saint-Esprit parle directement à Pierre. Et 4. Corneille reçoit le baptême du Saint-Esprit. 4 éléments significatifs ne feront jamais partie des circonstances qui conduisent au salut. Il s'agit bien d'une exception destinée à Pierre et surtout aux gens qui l'ont accompagné. Ils deviennent des témoins très importants qui vont porter cette nouvelle à qui il voudra les entendre. Dieu aime le monde entier. Son Fils est mort sous la torture pour toutes les créatures humaines. Et il leur a enseigné durant tout son ministère public. Mais malgré tout, les apôtres, encore imprégnés de l'Ancien Testament, et n'agissant pas en conséquence, sont trop imprégnés du système qui est trop puissant, des traditions qui sont trop profondément enracinées en eux. Le but du baptême de Corneille et de sa maison par le Saint-Esprit a pour but et pour unique but, non pas d'opérer une transformation en Corneille, mais bien de faire changer les chrétiens d'opinion afin qu'ils acceptent Corneille et au travers de lui tous les païens convertis. Et lorsqu'il arrive chez le Romain, Pierre lui dit, « Vous savez qu'il est interdit aux Juifs de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc, pour quelle raison vous m'avez fait venir ?» Et Corneille lui explique dans le détail ce que l'ange lui dit de faire. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, « En vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute façon, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Acte 10, 34. Et l'apôtre Pierre va continuer de parler en expliquant brièvement dans un langage concis, clair, percutant même l'histoire de Jésus. Et la Bible dit que, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis étaient venus avec Pierre. Et ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit ainsi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 10, 44. Lorsque ces gens furent-ils sauvés? Ils le furent comment? Pas par le baptême du Saint-Esprit et par le parler en langue. Cela ne représente qu'une effusion unique en son genre destinée à convaincre les Juifs qui doivent prêcher l'Évangile aux païens, les baptiser et par conséquent les considérer comme des frères à part entière. Mais après, Pierre se rend à Jérusalem et explique tout ce qui est arrivé à Jaffa et où il se trouvait, et à Césarée, chez Corneille. Il annonce même les six frères que voici m'ont accompagné, et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Père a bien protégé ses arrières contre les doutes, les suspicions, les discussions éventuelles. Il a été sage, car dès qu'il arrive à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis, c'est-à-dire les juifs chrétiens, le prirent à part de dire, tu es entré chez les incirconcis, et tu as mangé chez eux. Alors Pierre se mit à la faire un exposé suivi des éléments dans leur chronologie. Ils écoutent, et une sorte de déclic va se produire. Et le livre des Actes dit qu'après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifèrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Voici donc la raison de la vision de l'apôtre Pierre, ainsi que l'objectif très précis de l'intervention du Saint-Esprit, préalablement au baptême de Corneille. Un lien unit les deux événements, la démonstration du fait que le salut ne s'adresse plus qu'aux seuls juifs. Mais revenons au salut de Corneille et des gens de sa maison. Une question s'impose à nouveau. Sont-ils sauvés par le baptême du Saint-Esprit? Absolument pas. C'est bien le baptême d'eau, les mettant en contact avec le sang de Christ, qui leur assure le pardon de leurs péchés. Rien d'autre, si ce n'est leur foi, leur repentance. Jésus n'a-t-il pas dit en Marc 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Corneille est donc sauvé par la foi et par son obéissance à l'injonction de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés, comme tout le monde, ni plus ni moins. Le baptême du Saint-Esprit, quant à lui, n'est pas administré par les hommes, mais directement par Dieu. Ce baptême ne fait l'objet d'aucun ordre, d'aucun commandement. Il n'a jamais été effectué au nom de quelqu'un. Il s'agit d'un acte pour lequel l'homme ne peut être que passif. Il représente le contraire du baptême d'eau qui exige de nous l'engagement, le don de tout notre être par un désir ardent de faire la volonté de Dieu. Il est actif par définition, par essence, par destination, et se prolonge dans la vie du chrétien par une observation tout aussi librement consentie de la volonté du Créateur. Corneille et le sien avaient besoin d'être sauvés, et ils le sont, non par le baptême du Saint-Esprit, mais par le baptême